Bonjour à toi, Warrior, qui nous écoute depuis peu ou depuis toujours. Yes Podcast a besoin de toi pour continuer d'exister. Et oui, on en a parlé dans l'épisode 52. Depuis 2 ans, l'existence de ce podcast repose sur le travail gratuit des femmes. En l'occurrence, nous. Vous êtes plus de 10 000 auditeuristes à nous écouter chaque mois. Si vous mettez tous 1 euro, ça peut nous changer la vie. Et si tu ne peux vraiment pas, n'hésite pas à partager notre appel ou à nous mettre une pluie d'étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Le lien de la cagnotte est en description et sur notre Insta. Elle s'appelle De la force pour les warriors. Dans tous les cas, merci à toi et gros love.
Yes!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Bonjour à vous, nous revoilà pour un nouvel épisode de Yes, le podcast de Warrior. 2 fois par mois, on célèbre les victoires de meufs contre le sexisme et ça nous fait un bien fou. Je suis Anaïs et me revoici toujours en compagnie de mes deux hystérocrates enragés. Salut Margaïde.
Hello.
Salut Elsa.
Coucou.
C'est le 42e épisode et c'est aussi le dernier de cette 3e saison. Et pour l'occasion, nous enregistrons chez Margaïde, devant un public qui
sur
nous est
ma
cher.
Sur ma terrasse, ma super terrasse marseillaise.
Tranquillement. Et donc, on est en présence de nos potes, de nos amis, de nos copines. Salut tout le monde, c'est le moment de faire du bruit.
Coucou tout le monde.
Donc on a tenu à préparer un épisode un peu spécial, un peu best-of, parce que c'est la fin d'une saison, mais pas que, c'est aussi la fin de moi à ce micro. Et ouais, je me retire de Yes Podcast, mais ne vous inquiétez pas, on va d'abord savourer cet épisode comme il se doit. On a donc décidé de mettre en avant les warriors qui vous ont marqué et celles qui nous ont marqué. Parce que parfois, il y a des témoignages qui changent la vie, qui inspirent, qui donnent de la force. On voudrait montrer à toutes les personnes qui ont témoigné que leurs mots ont du poids. On est quand même la plus grande et la plus belle équipe du monde, il est donc temps qu'on se montre, comme on s'élève les unes les autres. Et sachez-le, chaque fois que vous prenez la parole, chaque fois que vous élevez la voix, il y a des personnes un peu partout qui se sentent moins seules et qui trouvent enfin une parole dans laquelle elles peuvent se reconnaître. En 3 ans, vous avez été des centaines à nous faire confiance pour diffuser vos histoires, parfois super intimes. Cet épisode est donc pour vous, en votre honneur, à vous, les Warriors de Yes Podcast. Pour commencer, on va revenir sur des anciens témoignages et Elsa, du coup, tu nous présentes le premier extrait.
Oui, alors c'est Alix. Alix est l'autrice de la fameuse réplique « Moi, c'est Madame » et elle a voulu revenir sur un épisode récent qui l'a marqué.
Hello la team. Alors moi l'épisode qui m'a le plus marqué, ça a été Warrior et éducation, parce que j'ai trouvé les témoignages hyper sincères et qui sortaient de ce qu'on entend généralement en tant que parent féministe, qui est un petit peu souvent un discours qui rend les choses assez simples, comme s'il suffisait de dire à ta fille que elle n'a pas besoin de mettre des robes, où il ne faut pas qu'elle laisse les gens faire quoi que ce soit à son corps sans consentement pour que ça aille bien. On a pris le risque d'élever des enfants dans un monde qui est marqué par la culture du viol et qui est fondamentalement sexiste, raciste, homophobe et tous les autres phobies qui nous entourent. Donc, c'est pas si simple. Et effectivement, j'ai beaucoup aimé les témoignages et également les discours de l'équipe, hein, faut pas l'oublier, qui soulignait vraiment le fait que y a ce travail de détricoter chaque jour toutes les ignominies que nos petits récoltent, entendent, perçoivent, subissent dans la société qui les entoure. Donc voilà, c'est un épisode qui m'a donné beaucoup de force parce que les témoignages étaient forts et que voilà, qu'on s'est senti moins seul. Donc merci encore à toutes les personnes qui ont témoigné et puis à vous. Forcément.
Merci Alix.
Merci Alix.
Yes, ça fait trop plaisir.
Grave, et c'est vrai que bah oui, c'est un énorme sujet. Enfin, nous, on en a parlé plein de fois entre nous, et ça faisait longtemps qu'on voulait le faire, cet épisode. Et je vous recommande vraiment les deux épisodes sur ce sujet du podcast Camille de Binge Audio. Donc, il y a Guide de la parentalité queer et Être parent dans un monde hétéro. Donc, c'est en deux parties, et les deux sont vraiment hyper intéressants. Donc, si vous vous posez des questions sur ça, allez écouter ces podcasts de toute urgence.
Merci encore Alix et Marga, du coup tu nous présentes notre prochaine warrior inspirée.
Voilà, inspirée et inspirante en fait. Alors c'est une de nos plus jeunes warriors en plus, elle nous avait fait parvenir son témoignage depuis le Québec. Vous vous rappelez peut-être de Romy, ça vous parle, dans l'épisode Dictate de beauté, elle nous parlait de son grand complexe,
oui.
Son ventre. Allez, pour nous rafraîchir la mémoire, je vous mets juste un tout petit extrait.
Et récemment, je suis allée dans une librairie et j'ai vu une fille de genre 16 ans qui portait un crop top et son ventre, il était pas plat. Et je l'ai regardée et je l'ai trouvée méga belle. Et je me suis dit, non mais on peut être belle et avoir un ventre rond. Et là, ça m'a complètement débouchée.
Voilà, donc
j'adore l'expression débouchée, c'est génial.
Alors depuis, sur la boîte mail, Romy nous envoie tout plein de messages. En fait, elle nous envoie des mèmes, elle nous raconte un petit peu ce qui se passe dans sa vie. Donc voilà, cet épisode de Yes Podcast lui a fait vraiment beaucoup de bien, c'est elle qui le dit.
Et elle en a plus, quel âge déjà ?
Elle a 12 ans.
Ah, voilà.
Wow.
Voilà.
Et c'est vrai que son témoignage avait été très intéressant aussi, parce que ça permet de rappeler encore une fois que les filles commencent à subir le sexisme très tôt, même avant 12 ans, hein, limite dès qu'elles sont nées, quoi. Donc au passage, comme on l'a dit tout à l'heure, un big up aux parents qui réfléchissent à comment faire pour armer les petites warriors pour qu'elles puissent en sortir dans notre monde de brutes. Et donc pour cet épisode, voilà, après l'appel à témoignages qu'on a lancé la dernière fois, Romy, elle a tenu à nous donner de ses nouvelles.
L'épisode qui m'a le plus marqué est l'épisode des dictées de la beauté. Je sais pas si ça compte, puisque j'ai participé à cet épisode, mais vraiment, ça m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Donc, je peux faire un peu le avant et après. Avant que l'épisode sorte, je me sentais mieux qu'avant, avant quand je mettais des vêtements larges, mais quand même pas trop confiante en moi. Maintenant, je me sens belle et j'emmerde tous les gens qui pourraient me juger, parce que, évidemment, j'ai commencé à me détester de plus en plus lorsque des gens m'ont fait des remarques désagréables. Je m'habille presque parce qu'on est encore dans le patriarcat, comme je veux, chandail, t-shirt, collant ou pas, mini short en jeans, parce que oui, je les aime, mes cuisses et mes jambes un peu trop musclées pour une fille et poilue comme une fille de 12-13 ans normale qui ne s'épile pas et qui ne le fera jamais pour plaire à un des pauvres types. J'ai même réussi à mettre un t-shirt qui montre un peu plus mon ventre il y a pas longtemps. Si quelqu'un me regarde bizarrement, je le regarde dans les yeux jusqu'à ce qu'il détourne le regard, car il n'a pas à me regarder et je n'ai pas à baisser les yeux parce qu'il le fait. Je mets des débardeurs qui montrent mes jeunes poils en dessous des bras parce que je les aime. J'aime toutes les parcelles de mon corps comme je devrais les aimer avec leurs poils tout doux. Alors messieurs qui trouvent qu'une femme n'est pas belle si elle est naturelle ou trop provocatrice si elle met des vêtements courts, je vous dis fuck you, parce que je suis un mélange des deux et que je n'ai plus honte et que je n'aurai plus jamais honte de ce que je suis et de qui je suis. Foutez-nous la paix, tabarnak.
Mais Romy, wow. Romy présidente de tous les pays, s'il vous plaît.
Vraiment,
t'as trop raison. Vive nos poils tout doux. Yes.
Bravo,
ouais.
Brava.
Ouais.
Brava, et moi je suis super émue d'entendre que tu arrives à te débarrasser aussi de tes peurs du sexisme que tu as aussi à intérioriser toi-même. C'est vraiment précieux à ton âge d'avoir ta force de caractère.
J'étais hyper loin de ça à son âge.
Ouais, non, mais
au contraire, à son âge, j'allais pleurer pour avoir le droit de m'épiler parce que je supportais pas, quoi. Je supportais pas le regard.
Non, mais ça promet, hein. Vraiment. Mmh. Bravo, bravo.
La relève est là.
Ouais, la nouvelle génération, moi j'ai de l'espoir, grave.
C'est clair, mais elles vont. Attends, 12 ans.
Ouais.
Enfin bref, ouais. Bravo.
Ouais, bravo Romy.
Et puis maintenant, je vais vous présenter Claire, on va l'écouter tout de suite et puis j'en parlerai juste après.
D'abord, je voulais vous remercier pour votre podcast. Je l'écoute en faisant mon jogging ou en allant au travail, il me donne la pêche pour avancer. J'ai parfois quelques épisodes de retard, mais entre deux actualités pas très rigolotes, ça me fait un bien fou. Je ne me souviens plus du nom de la warrior qui avait témoigné sur le premier épisode, celle qui avait sauté dans le bus avec le billet de 50 euros du connard qui la prenait pour une prostituée.
Je lui ai dit non, je travaille pas, mais je suis occupée. Et il me fait pour moi, tu vas travailler. Et il sort 20 euros de sa poche et il me dit tu vas me sucer. Je suis quelqu'un qui a la répartie facile généralement. Et là, je me suis dit mais est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que c'est pas possible? Il me sort 20 euros, qu'est-ce que c'est une blague? Enfin voilà, j'étais un peu perturbée. Lui, il était debout face à moi, donc moi j'étais assise. Je voulais prendre de la hauteur et lui montrer que j'avais pas peur de lui. Et là, il me met la main au sein, enfin il me pince le téton. Et il me dit tu mérites plus que ça, je vais te baiser. Et il sort 50 euros de sa poche. Donc moi, je le regarde droit dans les yeux, comme si j'allais céder à ses avances, enfin ses avances, à son insulte, on va dire. Et lui me regarde d'un air satisfait.
Je sens que je vais conclure.
J'ai vu d'abord le bus arriver qui était pas très loin. J'ai pris le billet de 50 euros, j'ai couru et je suis vite montée dans le bus. J'ai été bien contente de l'avoir baisé à mon tour, on peut dire. Voilà.
Parfait timing, parfait retour de bâton. J'ai imaginé cette scène je ne sais combien de fois dans ma tête. Pour moi, cette fille a fait un perfect. Je la cite souvent auprès de mes copines pour expliquer qu'on n'est pas obligé de subir et pour les inciter à aller vous écouter. C'est la warrior qui m'a marquée, celle qui m'inspire lorsque je sens des regards bien lourds et insistants. J'ai pas encore eu l'occasion de faire aussi bien, je souhaite pas non plus. En général, j'essaye d'éviter les raclures de bidet. Mais juste, bravo, meuf. Merci à vous pour ce que vous faites. Vous êtes ma parenthèse bien-être dans mes oreilles.
Oh, merci.
J'adore. Merci. Alors Claire, ça me fait tellement plaisir que tu aies choisi ce témoignage. Donc c'est Carole qui avait réalisé ce témoignage. J'ai vécu donc cette très désagréable expérience. C'est une copine et elle va kiffer savoir l'effet que ça t'a fait. Ça va lui faire super plaisir. C'était dans le tout premier épisode, l'épisode sur l'espace public.
À l'époque où on cherchait encore des petits jingles.
Oui, voilà. J'avais des témoignages. J'avais incrusté plein de sons dedans avec beaucoup de goût et de...
et de légèreté.
Donc je me souviens encore en plus parce que Carole, elle avait raconté ça sur Facebook et elle culpabilisait à fond parce qu'elle avait l'impression d'avoir volé les 50 euros au mec. Elle avait l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. Donc c'est un thème qu'on a beaucoup abordé en 3 ans, la culpabilité. On a tous le réflexe de chercher en soi déjà ce qui a pu provoquer l'agression, mais aussi de se reprocher la réaction qu'on a eue, quelle qu'elle soit finalement. J'aurais pas dû faire ça, j'aurais plutôt dire ça, j'aurais dû ignorer, machin. Même moi, ça m'arrive encore alors que je suis supposée être une experte en harcèlement dans l'espace public. C'est dire si ça prend du temps à déconstruire. Du coup, on va se le redire, quand on est agressé, on fait ce qu'on peut, uniquement et simplement ce qu'on peut. Parfois, on va être tétanisé, parfois, on va être sidéré, parfois, on va exploser. D'ailleurs, mes amis Paula et Ilia, en face de moi, savent très bien de quoi je parle. Ilia et Paula qui ont toutouné un agresseur qui va s'en rappeler toute sa vie, et c'est tant mieux. Et...
Bravo.
Bravo. Je suis très fière de mes copines. Et quelle que soit notre réaction, finalement, elle est légitime. Alors, sans aller jusqu'à le tuer non plus, hein, parce que sinon, ça se retourne évidemment contre nous. Mais on a le droit d'être en colère. On a le droit de répondre aussi par la violence. Et puis surtout, en fait, on improvise à chaque fois. On a aucune idée de comment on va réagir la prochaine fois, aucune idée de quand ça va intervenir, de ce qui va se passer, de ce qu'on fera. Alors on fait bien ce qu'on peut pour s'en sortir, et parfois aussi pour que le coupable il comprenne la leçon. Donc perso, je vois aussi dans chacune de ces réactions finalement un acte de sororité. Chaque fois qu'on en tatane un, on évite peut-être à une autre personne d'avoir affaire à lui plus tard. Et ça, c'est pas si c'est pas une putain de belle victoire, je sais pas ce que c'est quoi. Donc comme ce que fait Claire en parlant de l'histoire de Carole, en partageant le podcast avec ses amis, on diffuse toutes ces stratégies, on s'équipe entre nous et on devient plus forte tout ensemble. Et je trouve que c'est hyper beau.
Oui.
Merci Claire.
Trop bien. Merci.
Et Elsa, tu nous présentes maintenant Chloé.
Oui, Chloé, elle nous a envoyé un audio sur un témoignage extrait de notre épisode sur les femmes sexistes.
Alors moi, le témoignage qui m'a marqué, c'est celui de Laura. C'était dans l'épisode 25 sur les femmes sexistes. Et elle avait raconté qu'elle était posée à la terrasse d'un café et elle avait assisté à une scène sexiste. Il y avait une femme qui passait par là et qui avait dit à une petite fille qu'elle connaissait même pas et qui était en train de pleurer assise sur les genoux de sa mère. Elle lui avait dit « Arrête de pleurer, t'es pas belle quand tu pleures ».
Et là, genre mon cœur il a fait un bond. Je sais pas, pour moi c'était fou d'entendre quelqu'un dire ça. Et... Enfin ça paraît être une petite phrase lancée un peu futile comme ça et qui a pas trop de sens, mais ça m'a semblé fou en fait que... qu'on puisse dire ça à une petite fille qui avait rien demandé, quoi. Et je lui dis, je me tourne vers elle et je lui dis, pardon, pas belle. Et je lui dis, mais comment vous pouvez dire à une petite fille qu'elle est pas belle, elle pleure, elle a juste des émotions, elle a le droit de lâcher des larmes. C'est normal et vous devrez juste avoir de la compassion et un peu de douceur, quoi. Et puis je lui rajoute, ça vous regarde pas et être belle, c'est juste une injonction de la société qui fait que d'être véhiculée par des gens comme vous et qui détruit juste la confiance en soi.
Et j'ai trouvé que Laura était intervenue de manière super courageuse, parce que d'abord elle était extérieure à la scène et elle a osé parler, c'est pas évident. Et ses mots étaient hyper justes, ça m'a touchée parce que, enfin, ce dictacle de la beauté, je trouve qu'il est hyper présent, qu'il prend vraiment beaucoup trop de place dans la vie des filles. Et voilà, à un moment donné, ça suffit de garder le silence face à ces remarques-là. Qui laisse des traces. Et je pense que ça a eu un peu des répercussions, ce témoignage, pour moi, parce que j'ose un peu plus ouvrir ma gueule dans ces situations-là. Ça m'a notamment donné du courage dans un moment que j'ai vécu récemment à mon travail. Il y avait un de mes collègues de travail qui s'est permis de me rappeler ce que c'était d'être une femme. J'étais en train de déjeuner sur la terrasse, je voyais qu'il me regardait, je comprenais pas pourquoi. Et à un moment donné, il m'a dit « Tu devrais mettre de la crème hydratante sur tes jambes. » Donc j'étais un peu sous le choc. Mais j'ai quand même réussi à répondre. Je lui ai dit, mais merde, en fait, je fais ce que je veux avec mon corps. Bon, je pense que j'aurais pu avoir une répartie un peu plus percutante. Mais il a rien répondu, il s'est barré, gêné. Et j'étais quand même fière de moi parce que il y a quelques mois, je pense que j'aurais rien dit. Donc merci Laura, c'est un peu grâce à toi.
Merci.
Elle est très bien ta réplique.
Ouais, mais oui, ça, elle est très bien. Et ça me rappelle du coup que, enfin, le nombre de fois où on a des nanas qui nous ont dit non, mais c'est pas vraiment Warrior ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait,
c'est
etc.
C'est une toute petite victoire.
Voilà, genre
j'aurais
ça vraiment.
Trouvé mieux.
J'ai envie de dire c'est presque systématique. Enfin, c'est vraiment très 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 fréquent. Donc encore une fois, bah voilà, on improvise, on fait ce qu'on peut. Hein, donc ne vous justifiez pas, vous avez fait ce que vous pouvez et
répondre, c'est déjà énorme en fait.
Voilà, quoi déjà c'est clair et c'est hallucinant le truc. Tu devrais mettre de la crème, alors celle-là, je l'avais jamais.
Non, mais ça, franchement, c'est.
On peut parler du culot. Enfin, on a fait qu'en parler pendant 3 ans, mais.
Mais c'est surtout qu'au bout d'un moment, si tu avances dans la vie, tu te dis, c'est bon, j'ai tout entendu là. J'ai entendu toutes les conneries que les mecs peuvent dire. Bah non, en fait. Enfin,
tu devrais te raser la barbe un peu plus près.
Ouais, ou tu devrais t'acheter un cerveau surtout. Ouais. N'hésite pas, quoi.
Ou tu devrais fermer ta gueule.
Ouais, le silence est d'or.
Ouais, c'est ça.
Tellement rare.
Mais en tout cas, non, merci beaucoup, Chloé. Moi aussi, j'avais adoré ce témoignage. Et je pense qu'il faut encourager ce genre d'intervention quand on est témoin d'une situation sexiste. Enfin, qu'elle vienne d'un homme ou d'une femme, en fait. Et d'ailleurs, cet épisode sur les femmes sexistes, c'était un sujet très délicat. On a longtemps hésité. On nous l'a beaucoup, beaucoup réclamé. Je pense que sur les réseaux, c'est un des messages que j'ai lu le plus souvent. S'il vous plaît, faites un épisode sur les femmes sexistes et tout. Et on se disait, ouais, mais on peut pas faire ça et tout, parce qu'on va acculer les femmes et tout. Et au final, je trouve qu'il est hyper intéressant, qu'il y avait des témoignages vraiment intéressants. Donc,
Ça a beaucoup parlé de sororité, finalement.
Oui,
aussi
complètement.
Aussi intervenir, finalement, pour les autres quand toi t'es sidéré, quand tu vis le truc. Par contre, quand t'es extérieur, tu es peut-être plus à même de réagir, quoi.
Oui, et surtout qu'on vit dans une société sexiste, donc forcément, nous-mêmes, on a des réflexes sexistes sans le vouloir, quoi.
Je connais pas un individu qui soit pas sexiste, en fait.
Voilà, c'est ça, en fait.
Quel que soit son genre.
Exactement. Donc, vraiment, merci encore, Chloé, et j'espère à bientôt sur Yes.
Yes. Et Maria, maintenant, tu nous présentes Hélène.
Oui, alors, on écoute Hélène, donc, qui nous parle depuis Rodez, et son épisode préféré, c'est le numéro 37 sur l'éducation.
Quel succès.
Oui, quel succès. Non, mais...
Bonjour, j'ai beaucoup aimé l'épisode Warriors et éducation et plus particulièrement le témoignage de Blandine et surtout la répartie de Victor qui du haut de ses 9 ans envoie bouler les préjugés de ses copains sur le vernis à ongles.
Ils m'ont dit que j'étais une fille parce que je portais du vernis.
Et t'as répondu quoi ?
Que le vernis c'était pas pour les filles, c'était pour les ongles.
Je suis fan, juste remettre les choses à leur place. Donc avec mon compagnon, on essaye au maximum d'élever nos 3 garçons dans le respect des autres, l'ouverture au monde et surtout l'antisexisme. Voilà. Mais c'est pas toujours évident. Donc mon grand de 6 ans aime bien mettre un collier en perles de rocaille rose qu'il a fait lui-même. Et alors c'est vrai qu'un jour, pour aller à l'école, j'ai sorti l'excuse bidon. Je sais pas si les colliers sont autorisés à l'école. Voilà, en espérant juste qu'il oublie et qu'il ne m'en reparle pas. Voilà, je voulais le protéger face au sexisme ambiant de la société, que moi aussi je cautionnais par la même occasion, en n'assumant pas la vraie raison de ma réticence à ce qu'il le porte. Donc la punchline de Victor m'a bien fait prendre conscience. Ne pas douter des valeurs qu'on inculque à nos enfants. Faisons-leur confiance, ils ont de la ressource. Mon grand porte son collier quand il veut et surtout quand ça lui fait plaisir. Merci de nous faire rencontrer de si belles personnes.
Oh,
merci
Hélène.
Oui, et merci de nous rappeler ce témoignage qui effectivement est
magique, magique.
Génial.
Vraiment.
Merci Hélène et bravo surtout parce que c'est pas facile de se remettre en question comme tu l'as fait sur cette histoire de collier. On parlait de notre sexisme intégré. Ben voilà l'illustration. Donc bravo aussi d'avoir eu le courage de nous le raconter, de le raconter à toute la communauté Yes et à toutes les Warriors. Et c'est vrai qu'après cet épisode, on a eu énormément de retours de parents, et notamment de parents de garçons, parce que c'est vrai que cet épisode a beaucoup tourné à réfléchir à comment on éduque les garçons. Parce que voilà, c'est bien beau d'armer les filles à se préparer, à devenir des guerrières face à la société. Je pense que malheureusement, on peut pas en faire l'économie. Mais il y a autre chose, on ne doit pas faire l'économie non plus, et malheureusement, on n'y réfléchit pas assez. C'est d'apprendre aussi à nos garçons à prendre soin des autres, à exprimer leurs émotions, à être à l'écoute. et à ne pas agresser les autres, en fait. À un petit peu canaliser leur agressivité plutôt qu'à l'encourager comme on le fait trop souvent. Donc voilà, encore bravo Hélène. Et si je passe à Rodez, je viendrai fabriquer des colliers en perles de rocaille avec ton fils, parce que j'adorais faire ça quand j'étais petite aussi.
Top, eh bien, merci beaucoup. Et du coup, pour continuer, c'est notre tour de mettre en avant les témoignages qu'on a retenus pendant ces 3 années et ces 3 saisons. Et c'est toi qui commences, Elsa, en nous parlant de Camille.
Oui, alors un témoignage que j'avais vraiment kiffé à l'époque, c'était celui de Camille dans l'épisode sur le sexe, qui a décidé qu'elle en avait marre de faire des fellations à des mecs qui ne lui renvoyaient pas la balle.
Je m'appelle Camille, j'ai 34 ans et depuis toujours j'ai une sexualité très libérée. Je vis le sexe comme quelque chose de ludique, comme une exploration qui me permet de rencontrer des gens intéressants la plupart du temps, d'en apprendre sur les relations humaines et d'en apprendre sur moi et sur mon corps. Je défends vraiment l'idée que chacun est libre de son corps et peut s'en servir comme il veut, notamment comme un outil de plaisir. Très jeune, je me suis rendu compte que les gens, surtout les hommes, parlaient de ma façon de vivre le sexe comme étant masculine, c'est-à-dire anormal pour une femme, comme si on pouvait genrer la manière de vivre sa vie sexuelle. C'est évident que dans la société, la sexualité des hommes et des femmes est perçue différemment. Mais il y a une chose qui m'a toujours frappée, c'est le fait que les hommes trouvent naturel que les femmes pratiquent la fellation. C'est un acte qui est vu comme automatique, c'est souvent l'entrée en matière de l'acte sexuel, alors qu'il est très rare que les hommes pratiquent le cunnilingus spontanément, surtout lors des premiers rapports. Pareil pour la masturbation, c'est comme s'ils avaient peur que ça morde. Souvent, il faut demander, ou alors le cunnilingus est utilisé comme une monnaie d'échange pour obtenir une fellation. Bref, c'est un sujet qui me travaillait énormément. Et j'ai voulu tirer ça au clair, alors j'ai fait une petite expérience pendant quelques mois il y a quelques années. Puisqu'on disait que ma sexualité était plutôt masculine, j'ai décidé de me comporter comme un homme. J'ai arrêté de pratiquer la fellation ou la masturbation jusqu'à ce que l'homme pratique de lui-même un cunnilingus ou me masturbe, sans prévenir mes partenaires. Donc comme vous pouvez le deviner, ceux qui sont descendus tout seuls comme des grands ou qui m'ont caressé sans que je demande quoi que ce soit sont vraiment peu nombreux. Pour le reste, j'ai eu des réactions diverses. Certains m'ont demandé une fellation pendant le rapport, que j'ai refusé en suggérant qu'ils descendent en premier, avec plus ou moins de succès. Certains ont attendu la fin du rapport pour me demander si j'aimais ça. J'ai eu beaucoup de conversations intéressantes et je pense que la majorité de mes partenaires se sont vraiment rendu compte qu'il y avait un déséquilibre au niveau du sexe oral. Et ce qui est ressorti de ces conversations, c'est que beaucoup d'entre eux ne le font pas parce qu'ils ont peur de pas savoir ce qu'il faut faire, ils ont peur de mal faire, ils ont peur de pas être doués, ils trouvent qu'on les guide pas assez, ils ont peur de pas être à la hauteur, bref, il y avait beaucoup de doutes et de peur dans toutes ces conversations. Mais j'ai surtout eu le cas où un mec m'a dit avec un air de dégoût: « Ah non, mais moi je fais pas ça, je trouve ça dégueulasse. » Il m'a vraiment regardé comme si je lui avais demandé de lécher une barre de métro. Il trouvait vraiment ça hyper sale. Et là, ma réaction a été immédiate. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit: « Mec, je m'épile parfaitement. Je me lave un minimum d'une fois par jour. Je me lave toujours le sexe avant un rapport. Je mets des sous-vêtements propres. C'est loin d'être le cas de l'immense majorité des mecs. Donc si tu trouves ça dégueulasse, c'est pas parce que faire un cuni est dégueulasse, c'est parce que t'as un problème. » Et sur ces belles paroles, j'ai pris mes affaires et je suis partie. J'étais hors de moi parce que ce mec trouvait normal que je mette son sexe dans ma bouche, mais pas l'inverse. Et je n'ai jamais recontacté cette personne et je souhaite bien du courage à ses futurs partenaires. J'ai arrêté ma grève de la fellation peu de temps après. Ce que ça m'a appris à demander mieux ce que je voulais, à lancer une conversation sur le sujet et mieux faire comprendre à mes partenaires qu'on n'est pas là pour se juger, on est là pour échanger, on est là pour partager, on est là pour kiffer. Et quand la personne est ouverte à la discussion, ça peut vraiment devenir intéressant et c'est là qu'on peut vraiment commencer à se découvrir.
Waouh.
Et du coup, t'as fait la grève de la fellation ?
Alors non, enfin pas spécialement, mais en tout cas, elle m'a vraiment inspirée. Enfin, récemment, il y a Olympe de Gé aussi qui a fait la grève de l'hétérosexualité. Et moi, je trouve ça hyper intéressant de faire des expériences comme ça.
Mais pendant l'épisode, on avait parlé de faire la grève de la pénétration aussi, la grève de l'épilation. Oui. Ça nous avait donné pas mal d'idées de grève en fait.
Exactement. Donc n'hésitez pas à faire des grèves et à voir les réactions effectivement, et après aussi à discuter, hein, comme elle le dit, quand les mecs sont ouverts à la discussion, ça peut être intéressant. Sinon, j'ai quand même envie de dire fuck le slut shaming, parce que j'ai l'impression qu'elle en a subi beaucoup dans sa vie, et aussi fuck les scénarios inspirés du porno où il y a vraiment des étapes obligatoires à chaque fois, etc. Non, vraiment, je trouve que c'est une très bonne idée. je plus sois, je valide, j'encourage toujours autant. Et même si ça fait chier d'en arriver là et d'être tout le temps dans des rapports de force, j'ai envie de dire, bah malheureusement, ils nous laissent pas le choix. On doit faire la guerre jusque dans nos lits. Et même après avoir écouté 534 épisodes des couilles sur la table, ben bah, j'en suis toujours autant convaincue que l'intime c'est politique et l'hétéronormativité c'est dépassé. Donc effectivement, faites des grèves, testez des trucs, écoutez-vous. Parler, dites surtout quand il y a un truc qui va pas, parce que souvent on s'auto-censure en fait. Je pense que ça c'est un des pires fléaux dans le sexe. Hein.
Mais, et la question de l'hygiène aussi, qui était intéressante dans ce témoignage, parce que c'est vrai que on est toutes, en tout cas, enfin toutes les personnes hétéros ou toutes les personnes qui couchent avec des mecs cis se sont retrouvées confrontées à des bites qui puent, etc. Je pense, on peut se le dire. Et alors que nous, on a une injonction à l'hygiène qui est assez incroyable. D'ailleurs, on confond souvent épilation et hygiène.
C'est ça.
On peut très bien ne pas être épilé, être très propre, ça n'a rien à voir en fait. Et même voir
même c'est
conseillé de ne pas s'épiler pour rester propre.
Et c'est même conseillé de n'utiliser que de l'eau pour nettoyer la vulve en plus.
Elle est auto-nettoyante en fait. C'est quand même assez magique.
On est magique. Hein,
on est bien.
De toute façon, on savait déjà. Mais,
mais c'est ce qu'on avait nommé. Donc, je crois que c'est Clémentine Gallo qui l'avait nommé comme ça, la charge érotique. Toute la préparation au sexe, etc. Tout le temps d'épilation, il faut sentir bon, il faut avoir la peau douce, il faut être épilé, c'est ça. Donc même dans le sexe, on a une charge mentale encore écrasante.
Partout,
oui, dans tout. Bien, et du coup, maintenant, Margaine, tu reviens sur le témoignage que nous avait fait Odile.
Oui, alors, c'est un peu au-delà d'un témoignage, c'est aussi une rencontre, parce que cette warrior-là, j'étais allée la voir directement pour l'enregistrer. Donc, on préparait l'épisode sur la maternité, l'épisode numéro 8, et je demandais un peu à droite à gauche si quelqu'une avait un témoignage à intéressant à partager, et c'est une copine, Marie, qui m'a dit « Il faut absolument que tu rencontres Odile Tagawa, c'est la star des sages-femmes marseillaises. » Je me dis, ouais, c'est vrai, pourquoi pas aller voir une sage-femme, avoir son point de vue sur l'accouchement, la maternité, ça peut être intéressant. Enfin, d'avoir le point de vue, en tout cas, d'une soignante, pas forcément d'une mère. Bah, j'ai pas été déçue, parce que l'échange qu'on a eu a duré, je pense, plus d'une heure dans son cabinet à Marseille, juste à côté de la plaine, pour celles et ceux qui connaissent. Et j'ai beaucoup appris, et en l'écoutant, et le discours de Odile m'a aussi beaucoup, beaucoup touchée. Donc, je vous propose d'écouter un extrait.
Moi, ce que je veux questionner, quitte à choquer, c'est pourquoi on hypervalorise, par exemple, dans le sport, la puissance, la capacité à endurer du champion, et pourquoi on invalide d'emblée la femme, donc sa capacité à vivre quelque chose qui se passe dans son corps et qui peut être parfois une épreuve trop dure, et c'est pour ça que c'est magnifique qu'il y ait ces aides médicales, mais parfois qui peut être l'occasion d'un temps vraiment initiatique, d'un temps de découverte de soi. Combien de femmes nous disent après ça a été long, ça a été dur, mais putain, comment je me sens forte, j'ai découvert une puissance en moi que je ne soupçonnais pas.
Donc son témoignage, ça a complètement remis en question l'image en fait que j'avais de l'accouchement. Je le voyais comme un événement que la personne qui accouche subit dans son corps. Et ben j'ai appris qu'en fait on pouvait aussi être actrice de ce moment. Et à titre personnel, ça m'a fait énormément de bien et ça m'a rassurée aussi d'une certaine façon, parce que quand j'ai interrogé Odile, c'était il y a un peu plus de 2 ans et avec mon compagnon, on avait déjà l'envie de devenir parent. Donc ça tombait vraiment à pic, ce genre de réflexion. Alors depuis, Odile a pris sa retraite et moi je suis tombée enceinte 3 fois. Donc cette 3e fois, c'est la bonne, on dirait. J'en suis à 6 mois de grossesse. Et donc j'ai choisi de faire ma préparation à l'accouchement avec une collègue de Odile avec qui elle travaille depuis de très nombreuses années, qui a la même approche de l'accouchement, de la naissance et aussi de l'apprentissage de la parentalité. Parce que mine de rien, c'est tout un chemin et ça s'affrant, voilà, ça vient pas...
C'est pas inné du tout.
Voilà, ce n'est pas du tout naturel. Et voilà, jusqu'ici j'en suis ravie. Donc je fais des rendez-vous avec ma sage-femme Myriam dans le même cabinet et dans la même salle où j'ai fait l'entretien avec Odile. Donc c'est très rigolo. C'est aussi un des symboles de comment ce podcast aussi a pu me faire évoluer dans ma vie personnelle. Donc merci beaucoup Odile pour cette conversation. J'espère que tu t'épanouis toujours autant dans ta nouvelle vie de retraitée. Et d'élu municipal aussi, parce que oui, Odile est rentrée en politique.
Mais moi aussi, ça m'avait vachement marqué, ce truc de dire pourquoi les mecs, ils ont le droit de se dépasser physiquement et d'être héroïques et tout. Et genre, les femmes, on nous dit qu'on est faible alors que...
As-tu mis un enfant au monde voilà. pour me dire ça.
Exactement. C'est clair, et même quand tu le fais avec péridurale, hein, dans tous les cas, c'est incroyable.
Ah donc, oui, parce qu'on se concentre en fait sur le moment de l'accouchement, mais en fait, il y a quand même un pré-travail un travail qui peut durer. Voilà.
Puis on a enrobé tout ça d'un discours à base de magie, etc. Sauf que non, c'est ton corps là en fait qui est en train de faire le taf. C'est pas du tout un tour de magie. Donc ouais, effectivement, c'est un grand moment. Ça peut être un grand moment de puissance.
Ouais.
Et ça m'a aussi fait changer. Moi qui veux pas d'enfant, n'empêche que j'ai mis d'autres lunettes depuis le témoignage d'Odile aussi sur ce sujet. Merci beaucoup Odile. Et aussi pour toutes les femmes, toutes les personnes qui ont bénéficié de ces services. Du coup, j'imagine que c'est qu'il y en a un paquet qui peuvent la remercier aussi.
C'est clair.
Bien, et c'est à mon tour de vous présenter une warrior qui m'a marquée. On pourrait en citer de toute façon des dizaines dans les témoignages, tellement les warriors de Yes ont été inspirantes et inspirants, mais si je devais en retenir qu'un seul, ce serait celui de Julie. Donc si vous avez écouté l'épisode sur le sexe, le numéro 7, vous savez qu'il m'a particulièrement enjaillé. D'ailleurs, j'ai bien raconté ma vie dans cet épisode aussi. Je me suis bien vengée de tous mes ex, etc. C'était mon préf. Donc j'ai retenu un témoignage et je m'en remets toujours pas de ce témoignage, en fait, tellement il m'a fait rire et tellement je l'ai trouvé courageux. On l'écoute et on en discute après.
On discute, il lance un film et puis je suis pas venue pour voir un film. Bref, on commence à s'embrasser, on se déshabille et je comprends qu'il veut une fellation. Je suis ok, mais je lui dis par contre, préviens-moi quand tu sens que tu vas éjaculer, car je ne suis pas une femme de sperme et encore moins d'un mec que je ne connais pas. Et arrive ce qui devait arriver, je sens qu'il vient et avant que j'aie le temps de me retirer, je reçois tout son foutre dans la bouche. Et là, je suis assez colère parce que je l'ai prévenu et qu'il n'a pas respecté ce que je lui avais dit, quoi. Donc je garde tout son foutre dans la bouche. Je me relève, je lui roule une grosse pelle avec tout son sperme que je lui rends. Il me regarde interloqué et il me dit « Mais il vient de se passer quoi là ? Tu aurais pu me prévenir, c'est vraiment dégueu. » Je le regarde dans les yeux et je dis « Oui, c'est toujours dégueu quand on ne prévient pas. » Je me suis rhabillée assez vite et suis partie telle une princesse sur sa licorne et j'ai retrouvé mes jouets en rentrant qui m'ont procuré beaucoup de plaisir après un bon brossage dedans.
Magique.
Mais ouais, oui, mais en plus tout le monde en a parlé de cet épisode. Ouais. J'ai une copine qui l'a renommée la galoche au foutre.
Ouais.
C'est une technique, quoi.
Je m'en lasse pas. Enfin, pour moi, c'est vraiment un retour de boomerang, mais niveau experte, quoi.
Grave.
Alors, ça enlève pas que ce que le mec a fait, c'est super violent. Il a imposé son kiff et il a sciemment ignoré ses limites à elle. Donc, c'est parfaitement scandaleux. Et je pense que parmi les personnes qui ont des relations sexuelles avec des hommes cis, pas mal sont passés par là. Mais c'est la première fois, en tout cas, que j'entends quelqu'une sortir de cette situation avec autant de flamboyance et d'efficacité. Vraiment, moi, je suis scié. Depuis, j'ai une copine qui m'a dit avoir fait pareil. Sincèrement, je suis méga admirative. Se connaître ses limites, les affirmer, c'est déjà un chantier qui est pas simple. Perso, j'ai énormément de mal à le faire, mais alors là, retourner le problème à son expéditeur, je trouve ça magnifique, c'est presque de l'art. Julie, je suis sûre que tu as inspiré plein de monde et que depuis ton témoignage, des dizaines de types ont mangé leurs semences. Grâce
c'est
à toi, il y a peut-être d'autres
sûr.
Personnes qui n'auront pas à subir ce genre de comportement parfaitement dégueulasse. Donc, je souligne l'acte sororal que constitue ton témoignage. Je te remercie pour ta contribution à ce gros chantier qui est l'amélioration des rapports sexuels pour le plaisir de tous et de toutes.
Merci Julie.
Merci. Alors, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont des témoignages qui les ont marqués, peut-être, dont vous avez envie de parler, ou pas, hein?
Du coup, moi, il y a un truc qui m'avait pas mal marqué, c'était les warriors dans l'espace public, et c'était un témoignage d'une nana dont je me souviens pas le prénom, et j'en suis désolée, qui parlait d'un moment de solitude qu'elle avait vécu dans le métro face à un père et ses enfants. Le père la reluquait, et elle se décomposait, et instinctivement, elle s'est sortie une crotte de nez. Et le père s'est décomposé, et je trouvais ça absolument remarquable, et très pacifiste aussi. Donc voilà, j'ai décidé, en fait, ça m'est venu un peu comme ça, j'étais avec ma super amie Anaïs. On s'était fait arrêter par une voiture, comme ça nous arrive très souvent malheureusement. Et donc la voiture s'arrête au feu rouge et il baisse la vitre et il commence à nous aborder, il nous siffle. Et là, ça me revient. Et je décide de m'armer de ma plus belle crotte de nez et que je sors de mon nez. Et voilà, j'ai pas été jusqu'à faire la boulette entre les doigts comme elle avait dit, mais voilà. Et les mecs se décomposent devant nous et en fait n'ont pas de réaction à part de refermer les fenêtres et de partir.
Très, très vite.
Très vite. Et voilà. Je trouve que c'est une super opération, donc je suis pour les opérations crotte de nez, même si parfois il y a des choses plus violentes qui sortent de nous, ça peut être une technique assez cool.
Bravo.
Carrément, bravo.
Et il me semble que
effectivement,
c'est
Sarah, ils
avaient détalé. Cette témoin s'appelle Sarah.
Oui,
merci.
Je me rappelle
Sarah.
De sa réplique où elle disait « Non mais il m'a regardé, on aurait dit qu'il avait reconnu sa grand-mère dans un porno. »
Oui, exactement. c'était trop bien.
J'avais ouais, adoré cette, ce développement. Et bien du coup, c'est la fin de cet épisode best-of, la fin de cette troisième saison et la fin de ma participation à ce podcast. Bah arrêtez, j'avais prévu de pleurer dans 10 lignes. Il m'en reste encore plein à lire.
Non mais tu croyais qu'on allait vraiment attendre pour te faire pleurer?
Donc on remercie nos warriors inspirés. Merci à Claire, Chloé, Hélène, également à Julie, Romy et Alix qui repassent une seconde fois au mic. Merci à nos invités aussi. Merci d'être venus nous soutenir.
Oui, merci tout le monde.
Merci.
Pour participer à la quatrième saison, tu sais quoi faire. Hein, il suffit de nous suivre Yes Podcast sur Facebook, Twitter et Instagram pour connaître les prochains appels à témoignages. Et c'est ici que je vous quitte. Ça y est, c'est l'heure du moment émotion. C'est maintenant que je chiale. Alors à toi qui nous écoutes. Putain, c'est dur. Sache qu'on ne se quitte pas. Je continue de faire des blagues sans mauvaise compagnie. Tu sais, c'est ma boutique d'insultes. N'hésite donc pas à me rejoindre sur Instagram. Ça a été une sacrée aventure. Pardon. Ça a été une sacrée aventure. J'ai beaucoup appris de vos témoignages. On a beaucoup ri aussi. On a eu aussi envie de tout cramer. Et de se serrer les coudes comme jamais. Comme toujours, c'est la sororité que je retiens parce que c'est beau comme un camion. Et que c'est notre plus belle arme. Même si on sait pas toujours bien s'en servir, mais c'est notre plus belle arme pour tâtonner le sexisme. Bref, il est temps pour moi de me reposer. Là, on sent que je suis un peu fatiguée. Donc, par contre, ce qu'on a fait, Elsa, Marga et moi, et vous tous, ça reste accessible. Ça reste consultable à souhait, gratuitement et à l'infini. Yes Podcast, ça continue à la rentrée, donc reste à l'écoute. Continue, s'il te plaît. Continue de faire flamboyer et de flamboyer toi-même, comme tu sais si bien le faire. Ma sœur, mon Adelph, mon ami, ces derniers mots, ils sont pour toi. Prends toute la putain de place que tu veux. Existe à fond. Personne n'a le droit de t'abîmer ou te diminuer. Je dis bien personne. Et n'oublie jamais qu'on est une équipe, on est une team gigantesque. N'oublie jamais que tu n'es pas seul parce qu'on est légion. Tu es chez toi partout. Partout, tu trouveras une sœur pour te soutenir. Chacun de tes mots change le monde. En tout cas, tu as changé le mien. Quoi que tu en penses, meuf, moi je le sais, t'es puissante. T'es puissant, debout ou à plat, bruyamment ou en silence. Parce que tu sais, meuf, tu le sais ou pas, mais meuf, t'es tellement une warrior.
Merci Anaïs. Bravo.
Elle était dure celle-là.